Bienvenue à tous pour cette nouvelle immersion. On plonge aujourd'hui dans un rapport assez fascinant, le MED 2050 du Plan Bleu. Vous imaginez? Une projection sur l'avenir de la Méditerranée à l'horizon 2050. Un vrai travail de prospective pour dessiner les contours de ce que pourrait être cette région si chère à nos cœurs.
Exactement.
Et pour mener à bien cette exploration, on va s'appuyer sur les sources que vous nous avez transmises. Merci encore pour vos contributions.
C'est un plaisir.
Mais attention, hein, on n'est pas là pour jouer les devins. L'objectif, c'est plutôt de comprendre les dynamiques, les enjeux, les facteurs, bref, tout ce qui va façonner le visage de la Méditerranée dans les décennies à venir.
Oui, c'est ça. Identifier les tendances lourdes, les points de rupture potentiels, décrypter un peu le futur, quoi.
Absolument. Et avant de plonger dans le rapport lui-même, prenons quelques instants pour parler du Plan Bleu, l'organisme derrière tout ça.
Ah oui, une institution importante.
Créée en 1967, c'est un centre d'expertise reconnu pour les questions de développement et d'environnement en Méditerranée. Leur but, c'est d'éclairer la prise de décision grâce à des analyses solides et des projections étayées.
Ils ont une vision globale, c'est important de souligner.
Tout à fait. Ils travaillent sur 5 axes principaux. L'observation de l'environnement et du développement, la production d'études socio-économiques et environnementales, le soutien à la transition vers des économies plus vertes, l'anticipation des futurs possibles pour un développement durable, et enfin la création de ponts entre science, politique et société civile, notamment face au changement climatique. Un sacré programme.
Oui, et MED 2050 s'inscrit parfaitement dans cette logique.
Alors justement, ce rapport, qu'est-ce qu'il a de particulier?
Eh bien, il se focalise sur l'avenir de la mer Méditerranée, bien sûr. Mais il ne s'arrête pas là. Il prend en compte un large éventail de facteurs, de paramètres qui vont influencer cet avenir. Des facteurs qui peuvent être très externes à la région elle-même.
On parle de mondialisation, de changements climatiques globaux, de flux migratoires.
Exactement. C'est une approche systémique, holistique. On ne peut pas comprendre l'avenir de la mer Méditerranée sans comprendre l'avenir du monde qui l'entoure.
C'est clair. Et ça devait être un sacré défi de mener à bien une étude aussi ambitieuse.
Oh oui, imaginez. La Méditerranée, c'est un puzzle de pays, de cultures, de réalités économiques et sociales très diverses, parfois très différentes.
Avec des niveaux de développement, des enjeux politiques.
Exactement. Donc, intégrer toute cette complexité dans une seule analyse, c'est une gageure.
Initialement, il était prévu d'organiser des ateliers de prospective dans plusieurs sous-régions. Mais bon, la situation sanitaire mondiale, entre autres, a compliqué les choses.
Oui, ça a mis un frein. Mais malgré tout, ce rapport est une étape importante, une contribution majeure à la réflexion sur l'avenir de la Méditerranée.
Absolument. Et pour comprendre comment ils ont construit cette réflexion, il faut se pencher sur la méthodologie.
Oui, c'est intéressant.
Alors, le projet MED 2050 s'est organisé autour de 3 pôles principaux. D'abord, un comité de pilotage qui a assuré la coordination et le suivi des opérations.
Un peu comme le chef d'orchestre.
Exactement. Ensuite, un groupe de prospectives composé d'experts venus de toute la Méditerranée. Des spécialistes de l'économie, de l'urbanisme, de la biodiversité, du climat, de la géopolitique. Un vrai panel de compétences.
Des regards croisés.
Et enfin, un comité d'orientation chargé de veiller à ce que le rapport réponde bien aux attentes des commanditaires et des partenaires du projet.
Donc, on s'assure que le travail est bien ancré dans la réalité du terrain.
C'est ça. Et pour vous donner une idée de la diversité des acteurs impliqués, on peut citer quelques exemples. Au sein du comité d'orientation, il y avait des représentants d'organisations comme Agropolis International, la Fondation Anna Lindh, le CIAM, la Commission européenne.
Donc des structures très différentes, avec des missions, des priorités variées.
Oui, et du côté du groupe de prospective, on retrouvait des experts d'institutions comme le ministère de la Protection environnementale d'Israël, le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables d'Algérie.
Des points de vue du nord, du sud, de l'est.
Exactement. Donc, une richesse incroyable de perspectives, de connaissances.
Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'importance de l'approche participative. Au-delà de ces structures formelles, le rapport s'est nourri des contributions d'une cinquantaine de personnalités et d'acteurs clés de la Méditerranée. Il y a aussi eu un atelier très intéressant avec une quarantaine de jeunes méditerranéens.
Des jeunes engagés avec des profils variés.
Oui, et ils ont apporté un regard neuf, des idées novatrices. Cette pluralité des voix, c'est ce qui donne sa force au rapport.
Passons maintenant au contenu. Le rapport dresse d'abord un état des lieux de la situation en Méditerranée autour de 2020.
C'est ce qu'ils appellent l'analyse MED 2020.
Une photographie de la région à un moment donné.
Oui, et on y apprend des choses assez frappantes. Par exemple, la Méditerranée se réchauffe à un rythme plus rapide que la moyenne mondiale.
Un point crucial.
Oui, elle est à la fois un hotspot de biodiversité,
et une zone soumise à un stress hydrique important.
Surtout au sud et à l'est, où la disponibilité de l'eau est déjà un problème majeur.
Exactement. La pollution de l'air est aussi un sujet de préoccupation dans plusieurs zones. Et puis, n'oublions pas le poids du transport maritime et du tourisme de croisière. La Méditerranée est un carrefour d'activités intenses.
Avec un impact important sur l'environnement.
Ce qui est intéressant, c'est de comparer les prédictions faites en 2005 avec la réalité de 2020. On se rend compte que le réchauffement climatique, le développement de l'aquaculture et la pollution liée aux conteneurs maritimes avaient été sous-estimés.
Alors que la consommation d'énergie et l'emploi agricole avaient été surestimés.
Oui, ça montre bien la difficulté de l'exercice de prospective, surtout dans une région aussi complexe.
Absolument. Mais malgré ces incertitudes, le rapport met en évidence un certain nombre de grandes tendances sur lesquelles il y a un consensus assez large.
Lesquelles, par exemple, Saul ?
On observe des divergences démographiques importantes entre le nord et le sud de la Méditerranée. Une pression croissante sur les littoraux. Et puis, bien sûr, les effets du changement climatique qui se font de plus en plus sentir.
Hausse des températures, élévation du niveau de la mer, événements climatiques extrêmes.
Oui, tout ça. La perte de biodiversité est aussi une tendance majeure. Et puis, il y a les défis de gouvernance qui sont nombreux et complexes.
Des défis à l'échelle locale, nationale, régionale.
Oui, à tous les niveaux. Donc, on a déjà là un certain nombre de signaux d'alerte importants.
Mais le rapport ne se limite pas aux convergences. Il identifie aussi des zones de désaccord, des points de friction.
Ce qu'ils appellent les dissensus.
Oui, par exemple, il y a débat sur l'ampleur des points de bascule climatique que la Méditerranée pourrait atteindre. On ne sait pas exactement à quel moment, ni avec quelle intensité ces changements irréversibles pourraient se produire.
Et ça, ça a des implications majeures pour l'adaptation.
Un autre point de divergence concerne l'avenir de la mondialisation. Est-ce qu'on va vers une forme de repli, de démondialisation, ou au contraire, vers une intégration encore plus poussée?
Et quelles seront les conséquences pour l'économie méditerranéenne?
Exactement. Le rapport utilise d'ailleurs l'acronyme VUCA pour caractériser cette incertitude. Volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté. Quatre termes qui résument bien les défis auxquels la région est confrontée.
Prenons l'exemple de l'urbanisation. Le rapport prévoit une croissance démographique importante dans les pays du Sud et de l'Est,
en contraste avec une stagnation, voire un déclin démographique au Nord.
Oui, et cette croissance démographique va mettre une pression énorme sur les villes. Besoin de logements, d'infrastructures, d'accès à l'eau.
Sans parler de la gestion des déchets, des transports.
Tout ça dans un contexte de changement climatique et de montée des eaux. On peut se demander si les villes méditerranéennes ont la capacité d'absorber une telle croissance de manière durable.
La question de la capacité de charge se pose avec acuité.
Parlons maintenant des changements climatiques et de leurs effets sur la biodiversité marine. Le rapport estime qu'il est presque certain que le seuil de 2 degrés Celsius réchauffement sera dépassé en Méditerranée d'ici 2050.
Avec des conséquences importantes pour les espèces endémiques, celles qui ne vivent que dans cette mer.
Oui, certaines espèces pourraient voir leur aire de répartition s'étendre, mais beaucoup d'autres risquent de décliner, voire de disparaître.
On anticipe aussi des changements dans la distribution des espèces commerciales, celles que l'on pêche.
Ce qui aura un impact sur la pêche, mais aussi sur le tourisme.
Absolument. Et en parlant de pêche, le rapport prévoit un recours massif à l'aquaculture pour compenser la baisse des captures en mer. L'objectif, c'est de stabiliser les prises autour d'1 million de tonnes par an.
Donc on remplace la pêche traditionnelle par l'élevage de poissons.
En gros, oui. Mais attention, l'aquaculture pose aussi des questions de durabilité.
Sur le plan écologique social.
Oui. Il y a des risques de prolifération d'algues nuisibles, d'apparition de nouveaux polluants. Et puis, il y a la question de la pollution plastique, qui reste un problème majeur.
Le rapport prévoit d'ailleurs une augmentation significative de cette pollution d'ici 2040-2050.
Malgré tous les efforts de réduction des déchets, les plastiques déjà présents dans l'environnement vont continuer à se fragmenter, à se disperser.
Donc, on est face à un problème qui s'inscrit dans la durée.
Totalement. Si on résume, le rapport met en lumière 4 réalités déjà bien préoccupantes en Méditerranée. Un réchauffement rapide, une biodiversité menacée avec une surexploitation des stocks de poissons, une pollution plastique record et une pénurie d'eau criante dans certaines zones.
Un tableau assez sombre.
Oui, mais ce n'est pas tout. Le rapport explore aussi des ruptures majeures qui pourraient survenir d'ici 2050. Des événements moins prévisibles, mais potentiellement déstabilisants.
On parle de changements politiques importants, de crises géopolitiques.
Exactement. Le rapport évoque par exemple la possibilité de plans de reconstruction massifs suite à des catastrophes naturelles ou des conflits. Il mentionne aussi des signaux faibles, des tendances émergentes qui pourraient prendre de l'ampleur.
Par exemple,
des initiatives citoyennes pour la protection de l'environnement, des modèles économiques alternatifs, des formes de coopération inédites.
Des innovations sociales, technologiques.
Oui, des choses qui se mettent en place à petite échelle, mais qui pourraient avoir un impact significatif à l'avenir.
Intéressant. Mais venons-en maintenant au cœur du rapport, les scénarios pour les 30 prochaines années.
C'est là que ça devient vraiment captivant.
Alors, ces scénarios, ils sont le fruit de toute l'analyse prospective qu'on a évoquée, mais aussi des visions recueillies auprès de jeunes et de personnalités méditerranéennes.
Ils ont utilisé un outil particulier pour construire ces scénarios, le tableau morphologique.
En quoi ça consiste, Vost?
C'est une méthode qui permet d'organiser les différentes hypothèses, les variables clés qui vont influencer l'avenir. On les croise, on les combine pour explorer différentes possibilités.
Donc on imagine différents futurs possibles en fonction de l'évolution de ces variables.
Exactement. Et sur le plan méthodologique, ils ont combiné deux approches. La première, c'est une analyse morphologique basée sur le cadre de gestes. De gestes.
Oui, ça signifie démographique, économique, environnemental, social, géopolitique et technologique. Donc on analyse l'évolution de la situation dans chacun de ces domaines.
Et la deuxième approche?
Elle s'est focalisée sur l'identification des variables clés, celles qui auront le plus d'impact sur l'avenir de la région. Ils ont ensuite hiérarchisé ces variables pour voir lesquelles étaient les plus importantes.
Un travail de hiérarchisation.
Oui, et au final, deux groupes de travail différents ont proposé des ébauches de scénarios qui ont ensuite été fusionnés.
Pour aboutir à un ensemble cohérent de 6 scénarios.
Exactement.
Et ces scénarios se distinguent selon 3 axes principaux.
Lesquels?
Les grandes tendances mondiales, l'évolution des valeurs et des initiatives locales et le rapport entre les priorités économiques et la durabilité.
3 axes qui vont structurer les différents futurs possibles.
Oui, et chaque scénario a un titre assez évocateur.
Par exemple,
le premier scénario s'intitule « Stagnation et vulnérabilité accrue ».
Un scénario plutôt pessimiste.
Oui. Dans ce scénario, les politiques restent pragmatiques, à court terme, sans réelle volonté de réduire les inégalités entre le Nord et le Sud. Les tensions géopolitiques persistent, on assiste à une militarisation des frontières.
Y compris en mer.
Oui, et les secteurs liés à la mer n'arrivent pas à enclencher une véritable transition écologique.
Le progrès technologique est lent. La région reste divisée face aux défis climatiques.
Donc, un statu quo qui conduit à une aggravation des problèmes.
Oui, un scénario où on continue comme avant, sans vraiment s'attaquer aux causes profondes des problèmes.
Le deuxième scénario s'appelle « Choc des crises et adaptation forcée ».
Un scénario plus chaotique.
Oui, imaginez une Méditerranée prise dans une spirale de crise. Crise climatique, économique, sociale, politique.
Les institutions s'affaiblissent, les inégalités explosent, il y a des émeutes, des pénuries.
La région se fragmente, la coopération internationale est quasi inexistante.
Des régimes autoritaires pourraient émerger.
Et les populations n'ont d'autre choix que de s'adapter localement, avec les moyens du bord.
Un scénario de survie, en quelque sorte.
Oui, un scénario où les crises s'enchaînent et où les capacités d'action collective sont très limitées.
Le troisième scénario, c'est croissance à tout prix.
Un scénario qui met l'accent sur le développement économique.
Oui, dans ce scénario, il y a une volonté politique forte d'intégrer la mondialisation, de privilégier la croissance économique à court terme.
Même si ça se fait au détriment de l'environnement.
Exactement. La croissance démographique est forte au sud et à l'est, mais la migration est contrôlée.
On investit massivement dans les infrastructures, mais ça crée une économie à 2 vitesses.
Avec des régions qui profitent de la croissance et d'autres qui sont laissées pour compte.
On continue à dépendre des énergies fossiles, même si on développe un peu les renouvelables.
L'aquaculture se développe, le tourisme se transforme.
On mise sur les innovations technologiques, mais surtout celles qui sont rapidement rentables.
Un scénario de développement rapide, mais avec un coût social et environnemental important.
Le quatrième scénario s'intitule « Transition inégale vers un développement durable ».
Un scénario plus nuancé.
Oui. L'Union européenne joue un rôle moteur dans ce scénario, en promouvant un partenariat euro-méditerranéen axé sur la protection de l'environnement et le développement durable.
On investit dans les technologies vertes, on facilite les transferts de technologies, on adapte le secteur de la pêche.
On privilégie une approche scientifique.
Mais la mise en œuvre de ces transitions reste inégale. Il y a des disparités entre les pays, des tensions politiques qui persistent.
Donc un scénario de progrès, mais avec des obstacles et des limites.
Le cinquième scénario, c'est un autre modèle de développement durable spécifiquement méditerranéen.
Un scénario qui mise sur l'innovation sociale et la coopération régionale.
Oui. Le changement vient de la base dans ce scénario, porté par la société civile, les initiatives locales.
On privilégie la coopération sud-sud. On réduit la dépendance vis-à-vis de l'extérieur.
On investit dans des modèles durables. On favorise une certaine modération démographique.
On planifie le territoire en valorisant l'arrière-pays. On réoriente l'économie vers la qualité et les spécificités méditerranéennes.
On met l'accent sur l'adaptation, la résilience.
Un scénario qui mise sur l'autonomie, la solidarité, la créativité locale.
Et enfin, le sixième scénario, la Méditerranée, comme un bien commun mondial.
Un scénario qui repose sur une prise de conscience collective à l'échelle internationale.
Oui, la dégradation écologique de la Méditerranée est telle qu'elle est reconnue comme un bien commun à protéger collectivement.
On mobilise des fonds internationaux importants pour la restaurer.
On engage une transition radicale des activités maritimes vers la durabilité.
Transport maritime décarboné, tourisme de croisière vert, réglementation stricte.
La Méditerranée devient un modèle d'excellence écologique.
Avec une gouvernance unique qui implique les organisations internationales, les acteurs régionaux et la société civile.
Donc, un scénario qui mise sur une action collective forte à l'échelle mondiale.
Voilà pour les six scénarios. Bien sûr, aucun ne se réalisera tel quel. Ce sont des projections, des pistes de réflexion.
Mais ils couvrent un large éventail de possibilités.
Oui, et ils nous aident à comprendre les enjeux, les choix qui se posent à nous.
Et ce qui est important, c'est que ces scénarios ne sont pas de simples exercices intellectuels. Ils ont une visée pratique.
Ils soulèvent des questions concrètes pour l'action publique.
Chaque scénario met en lumière des défis, des opportunités spécifiques.
Et en guise de conclusion, je dirais que plusieurs leçons se dégagent de ce rapport.
Lesquelles?
La première, c'est que l'inaction n'est pas une option.
On ne peut pas se permettre de rester les bras croisés.
L'urgence d'agir est réelle. Il faut s'adapter, prévenir les risques.
La deuxième leçon, c'est l'importance de la coopération.
À tous les niveaux. Local, régional, international.
On ne peut pas s'en sortir seul.
La troisième leçon, c'est qu'il faut intégrer les préoccupations environnementales dans toutes les politiques publiques.
L'environnement n'est pas un secteur à part.
C'est un enjeu transversal.
Et enfin, la Méditerranée a la capacité de tracer sa propre voie.
Elle a des atouts, des ressources, des savoir-faire uniques.
Il faut les valoriser, les mobiliser pour construire un avenir durable.
Exactement.
Le rapport se termine d'ailleurs par une série de propositions concrètes.
Donner la priorité à l'adaptation, renforcer l'application des lois, investir dans les transitions écologiques et énergétiques. Promouvoir une agriculture et un tourisme durable. Valoriser l'éducation, la jeunesse.
Mettre en place une nouvelle gouvernance régionale.
Un programme ambitieux.
Mais nécessaire. Et pour vous, chers auditeurs, une dernière question. Parmi ces futurs possibles, lequel vous semble le plus probable? Lequel vous paraît le plus souhaitable?
Et quel rôle chacun d'entre nous peut-il jouer pour influencer la trajectoire de la Méditerranée pire?
N'hésitez pas à approfondir la réflexion, à explorer le rapport MED 2050 et les travaux qui s'y rapportent.
C'est une invitation à s'engager, à construire ensemble l'avenir de la Méditerranée.
Merci de nous avoir écoutés.
À bientôt.